se renouvelle en permanence. Assez drôle. Rarement vu deux fois les mêmes personnes, mis à part, une personne qui va avoir la médaille, vous qui étiez là toujours. Voilà. Voilà. Bien. Donc, dernière intervention qui aurait dû intervenir plus tôt, parce que c'était la manière de faire l'articulation entre la partie très académique avec les chercheurs qui ont parlé de la sociologie des professions et des transformations du métier, et puis plus des praticiens qui venaient parler de leurs difficultés actuelles, de leur de façon de procéder pour faire de la réception, qui avait une cheville qui était l'enseignement du projet, qui va intervenir à ce moment-là, d'aller à les agendas des différents intervenants, après que cette intervention arrive en dernier. Voilà. Comme c'est pas tout le temps le même public, c'est pas grave, parce que pour la personne qui a assisté à tout, il va faire l'effort d'articulation et de remonter un peu dans la chronologie. Donc, une intervention qui a porté sur l'enseignement du projet, projet de l'Europe, singulièrement, avec une énonciation de 10 grands principes. Vous pouvez retrouver ce texte, ce faire dans un ouvrage publié en l'honneur d'Antonio Daniel, qui est parti à la retraite. J'ai une version qui est dans les archives ouvertes de l'Université de Genève, si vous voulez la retrouver, qui peut vous prendre une prise à l'autre. Michel Tronda est architecte, urbaniste, elle a son agence de l'urbanisme, puis elle exerce une activité d'enseignante dans différents masters, le master lausannois de géographie, par la mention d'urbanisme et aménagement, qui a enseigné aussi dans une masse en urbanisme durable.
Ponctuellement, oui.
Et puis dans le master en développement territorial, donc l'articulation aussi de la pratique et de l'enseignement. Après la discussion. Même format que d'habitude, une intervention 45 minutes, une heure, et puis après un échange avec la salle. Et puis, comme à l'habitude, la conférencière se présente de manière un peu plus
développée. Moi, je m'attendais à dire ça. Voilà. Alors, bonjour à tous, à ceux que je connais et à ceux que je connais moins ou pas. Oui, voilà, je suis donc architecte. J'ai pratiqué quelques années comme architecte, une dizaine d'années. Et puis après, je me suis rendu compte que finalement, mon sujet d'intérêt était vraiment la ville. Donc, j'ai abandonné l'architecture et je me suis consacrée uniquement à l'urbanisme. J'ai eu l'occasion de travailler à la fois en France, en Suisse et puis ponctuellement un peu en Vallée d'Ost aussi. Parce qu'il parle français, mon italien n'est pas suffisant justement. Mais voilà. Et j'ai eu l'occasion, alors mon itinéraire n'a jamais été tout droit, parce que je trouve que sur la vie professionnelle, c'est un voyage. Donc j'ai voyagé. J'ai d'abord été assistante à l'Université de Genève, toute jeune, mais au niveau des études régionales sur les questions transfrontalières. Puis j'ai monté un bureau d'urbanisme en France, qui a commencé sur les questions de coopération transfrontalière. J'ai beaucoup travaillé autour de l'espace Mont-Blanc. Conseil du Léman, c'était vraiment l'époque de la création de toutes ces structures qui présentent un intérêt très grand, à mon sens, de pouvoir voir comment dans deux systèmes de pensée différents on répond à la même question. Ça, j'ai toujours trouvé que c'était intéressant. Et puis ensuite, je suis allée travailler au niveau de l'administration cantonale vaudoise. C'était une occasion super intéressante. J'ai participé à la naissance d'un projet d'agglomération dans le canton de Vaud. Puis je suis retournée au niveau académique dans la communauté d'études en aménagement du territoire LPFL. Et il y a 10 ans maintenant, j'ai monté mon bureau à Genève, mon agence où je travaille toujours en réseau avec d'autres. Mes domaines de prédilection, c'est plutôt la méthode, c'est plutôt comment organiser les processus, c'est plutôt le design du processus. C'est pour ça que d'ailleurs, c'est plutôt ce que j'enseigne. Et puis, la plupart du temps, je travaille avec des groupes pluridisciplinaires, parce que je trouve que c'est ce qui est le plus riche. Suivant les groupes, je suis parfois le scrim, parfois le pilote, parfois l'urbaniste, ça dépend des fois. Je trouve que c'est pour continuer ce voyage. Alors, comme l'a dit Laurent, ce cours-là, que j'ai déjà utilisé une fois avec les étudiants, c'est le résumé d'un article qu'on a publié avec Pierre Federsen à l'occasion du départ d'Antonio Daconia à la retraite. L'idée de ses assistants, maîtres assistants, ayant été de lui offrir un livre avec une série d'articles. Donc voilà, nous, on nous avait demandé de faire ça, et avec Pierre, qui est un complice de longue date, qui présente ses excuses de ne pas être venu de Zurich pour aujourd'hui. Donc on s'est mis d'accord que c'était moi qui parlais en notre nom à nous deux. On s'était dit, tiens, finalement, on pourrait s'imaginer dire ce qu'on a envie de dire après 10 ans d'enseignement en 10 principes au moins. Donc on a chacun réfléchi de notre côté à dire, voilà, qu'est-ce qui pour nous, chacun de nous, est le plus important. Et puis on s'est retrouvés, au bout d'un temps, quand on travaille ensemble, ça se sent, avec 8 principes absolument identiques. Donc on a négocié les 2 derniers pour arriver aux 10. Et voilà. Alors, comment est-ce qu'on en est arrivé là? Disons, l'idée, ça a été au bout de quelques années d'enseignement, une dizaine de pratiques, beaucoup plus, mais comme moi. Finalement, ce qui nous a semblé important de dire, c'est que la conception d'un projet urbain, d'un projet de territoire, pour nous, je le dis souvent aux étudiants, c'est surtout une question d'échelle. Dans ces différentes composantes, la composante spatiale, matérielle, et la composante processus, acteur, c'est jamais une démarche linéaire. Ceux qui m'ont déjà entendu le savent. Par contre, c'est beaucoup plus simple de raconter cette démarche sous forme d'une succession d'étapes, alors que ces itérations, en réalité, elles sont là, elles sont nombreuses, et puis il nous semble même qu'elles sont souhaitables. Donc ces 10 principes, on les a imaginés pour servir de guide dans l'apprentissage du projet urbain. Et finalement, après l'avoir testé l'année dernière, j'ai demandé à la fin de l'année aux étudiants si ça leur avait été utile, que je leur raconte ça, qui me semblait peut-être trop touffu en premier cours, et ils ont répondu que non. Alors, ça les avait aidés. Il est évident que c'est non seulement les principes qui nous paraissent importants pour l'enseignement, mais c'est aussi parce que c'est comme ça que nous, on conçoit l'urbanisme. Et puis parce que, il n'y a pas que Pierre Federsen avec qui j'enseigne, j'ai utilisé cette citation-là, un petit clin d'œil à Marcelin, parce que j'ai trouvé avec qui j'ai enseigné aussi au niveau du master en développement territorial, parce que j'ai trouvé que cette phrase, elle m'a parlé beaucoup pendant ta conférence d'adieu. L'idée de dire que finalement, ce n'est pas le nombre qui est un problème, mais c'est l'organisation du nombre, hein, d'Adobe. Et j'ai trouvé que c'était une très bonne manière de dire les choses, surtout aujourd'hui où peut-être le tableur Excel parfois prend un peu trop d'importance. Et l'organisation du nombre, l'organisation de la quantité, c'est quand même ça notre métier. Alors, projet urbain, rapidement, comment on le conçoit nous, comment on l'explique, comment on l'imagine. Pour nous, c'est un long processus multi-acteurs qui débute avec une intention de l'un des acteurs. Ça peut être un privé, ça peut être l'État, ça peut être une commune, peu importe. Ça peut être une association, une coopérative, et qui aboutit à sa réalisation. Quelle qu'en soit l'échelle, que ce soit un quartier ou un territoire intercommunal, et quelle qu'en soit la matérialité, à dominante minérale ou à dominante végétale, ça va dépendre. L'espace à la sortie sera forcément très probablement un peu minéral et un peu végétal, ou beaucoup minéral, un peu végétal, ou beaucoup végétal, un peu minéral, peu importe. Et ce qui nous semble aussi important de dire et d'affirmer, où que soit, présenté l'enseignement, c'est qu'il y a plusieurs métiers qui sont concernés par l'ensemble de ce processus. Évidemment, les urbanistes, mais aussi les paysagistes. D'ailleurs, il y a des paysagistes urbanistes, des architectes, il y a aussi des architectes urbanistes, des ingénieurs en mobilité, des ingénieurs en environnement, des sociologues, des économistes, et même des artistes, parce que parfois, d'intervenir avec une sensibilité sur... l'ambiance, ces choses-là, c'est quelque chose de très important. Alors, on a ces 10 principes. Chaque fois, je les ai illustrés par une de mes images. Ça, c'est une image fétiche. Il va falloir que j'en change. Vous voyez ça ce matin, je l'ai déjà beaucoup utilisé. C'est juste que c'est un souvenir de voyage. Quand je suis arrivée en Corée, ma nièce m'a dit, mais le coréen, c'est facile. Ça s'apprend en une semaine à lire, pas à comprendre. Et puis, je me suis dit, oups, j'ai dû passer l'âge où c'est faisable. Mais non, en fait, c'est faisable. C'est un système très simple. Ça ne se voit pas quand on le voit comme ça, mais c'est un système très simple. Donc l'idée, c'est que le territoire, ce n'est pas forcément lisible du premier coup, mais que voilà, il faut continuer, il faut explorer, se dire tiens, ça j'ai pas compris, mais voilà. Alors l'idée, le premier principe sur lequel on était absolument d'accord tous les deux, c'est cultiver une aptitude générale exploratrice et enthousiaste. Le gros avantage du métier d'urbaniste, c'est qu'on n'a jamais fini d'apprendre, donc je vous encourage à continuer. Moi, je continue encore. Et il nous semblait que finalement, dans ce métier, il y a trois aptitudes essentielles et que l'enjeu d'un bon urbaniste, c'est de continuer à les améliorer sans arrêt. Il y a la créativité, il n'y a pas forcément un ordre d'importance. La créativité, sensibilité, intuition, c'est vrai que pour avoir beaucoup enseigné à des géographes, c'est pour ça qu'on l'a mis en premier, parce que ce n'est pas forcément la compétence qui est la plus valorisée au démarrage des études en géographie. Par contre, en architecture, j'aurais inversé, j'en ai à penser structuré. C'est-à-dire que le raisonnement, la rigueur, la cohérence, ça c'est quelque chose qui est aussi important. La troisième compétence, c'est la capacité de communiquer avec toute la palette d'outils qui va avec. C'est très important d'essayer de rentrer dans ces trois dimensions. On ne peut pas être excellent dans les trois. Ce qui est important, c'est de savoir où on est bon, mais de pouvoir entrer en dialogue avec ceux qui sont bons dans les autres domaines. La nouvelle manière de représenter la profession, hein, ce n'est pas seulement l'acte créateur, ou bien pas seulement un document de communication. Pour nous, c'est un dialogue constructif et un dialogue qui intègre l'apport de chaque métier et de chaque catégorie d'acteurs. C'est vraiment ce qui nous semble important. Et la recherche continuelle de nouvelles manières de faire, pour nous, c'est vraiment aussi quelque chose qui permet de chaque fois chercher le juste équilibre entre la règle de l'art, hein, pour le sens d'Alberti, très ancienne, c'est-à-dire que il y a un certain nombre de choses, l'eau ne coule que d'amont en aval, ou bien pour faire passer un piéton ou un cycliste, il y a des dimensionnements qu'il faut connaître. Mais après, la spécificité de chaque territoire nous semble aussi un élément déterminant, un peu en réaction à l'internationalisme des années des années 30 et au-delà. La deuxième recommandation, c'est commencer la démarche de projet par la remise en question de la question posée. Alors, c'est vrai que j'adore cette citation d'Einstein qui vient du nid du fou. Inventer, c'est penser à côté. Je trouve très juste. C'est juste un léger devoir d'impertinence, c'est-à-dire de dire, mais ce n'est pas seulement de l'impertinence. C'est de se dire finalement, on pose une question en fonction, le mandant, il a pu avoir un super cahier des charges, travailler longuement et avoir une vision très claire de son problème, mais il se peut aussi qu'il n'ait pas eu l'occasion ou pas eu la possibilité de faire ce travail-là. Donc le début de la démarche de projet, c'est de vérifier que la question est la vraie question. Il m'est arrivé plus d'une fois de creuser pour comprendre quelle était la question derrière. Je suis arrivée une fois dans une commune qui voulait juste aménager un chemin rural avec un collègue ingénieur agronome. Et puis en fait, on s'est aperçu que c'était toute la planification de l'espace rural qui était la vraie question, savoir comment mettre les serres, enfin ces questions-là. Donc voilà, c'est vraiment très important parce qu'en plus, si on ne le fait pas, on risque fort de passer à côté du problème et du vrai sujet. Donc toujours prendre le temps d'une phase exploratoire. Et d'expérience, mieux vaut trop de questions que trop peu. J'ai jamais eu de problème au démarrage de projet en essayant de repréciser bien le but recherché, l'objectif à atteindre, la pertinence de la question, l'échelle de la question. Donc souvent, ça, on va avoir une question posée par une entité qui est légitime dans une certaine échelle, une entité politique, et finalement, la question dépasse l'échelle assez fréquemment. Qui la pose, donc la maîtrise d'ouvrage, ça c'est souligné juste parce que c'est un des trois termes qui va, et les deux autres vont arriver après, et quel est son pouvoir de décision. C'est aussi important de considérer que le projet c'est comme un long processus de décision, et il faut pouvoir comprendre comme urbaniste qui prend la décision, quelle est sa marge de manœuvre, à qui il doit en rendre compte et comment tout ça s'articule. De toute manière, ça permet, dans tous les cas, même si tout est bien défini, ça permet aux deux parties de se comprendre, de formuler ou reformuler la commande d'un commun accord, et c'est un très bon démarrage. Ensuite, phase énorme dans son importance, c'est partir à la découverte du site. Alors, partir à la découverte du site avec ses pieds, avec son appareil photo, avec son crayon, ça dépend de ses compétences à soi, voir, lire, comprendre, décrire. par différents moyens. Et l'idée, c'est vraiment de découvrir le génie du lieu ou l'ADN du territoire. C'est vraiment très important que le maître d'œuvre, donc l'urbaniste, quel que soit son domaine d'origine, hein, paysagiste, architecte, urbaniste, géographe, se mettre en état d'effervescence, ça c'est bien la lettre de Corajou, de mémoire, c'est vraiment se mettre dans une certaine posture pour pouvoir sentir et ressentir, donc utiliser la première des compétences que je mentionnais tout à l'heure. Les échanges avec les habitants, les échanges avec les acteurs du territoire, très en amont, au sens de la maîtrise d'usage, c'est aussi quelque chose d'important et d'intéressant, avant que le projet ne soit même démarré. L'intérêt, c'est qu'un professionnel va avoir un regard extérieur à un territoire, et d'avoir le témoignage des regards qui vivent le territoire. C'est quelque chose de très riche. Bien sûr, un certain nombre de données factuelles, statistiques, planification en force, etc., ce sont des choses qu'il faut avoir en rayon. Mais là, ce n'est pas par hasard que c'est en troisième ligne, parce que pour nous, je dis nous parce que vraiment c'est un point sur lequel Pierre et moi on est absolument d'accord, on ne déduit pas un projet réinvers, on ne déduit pas un projet de l'espace qui reste une fois qu'on a fait la somme de toutes les planifications en force. Il y a, évidemment, il faut en tenir compte, mais il y a d'autres manières de faire. Et puis, le deuxième point vraiment essentiel, c'est ici n'est pas comme ailleurs. Bah oui, j'ai juste un projet ne se déduit jamais mécaniquement de ce qui reste une fois les contraintes superposées. S'il se déduit d'expérience, il est la plupart du temps moins bon que si on élabore d'abord un projet tel qu'on pense que ce serait souhaitable, et puis qu'ensuite, on regarde comment on peut l'adapter pour qu'il rentre dans le cadre légal, bien sûr. Il est essentiel de commencer toute démarche de projet plutôt à l'inverse, par la découverte des trésors du site. C'est-à-dire, si on commence par les contraintes, ça induit, je dirais, une sorte de projet par défaut. Alors que si on commence par les trésors, on peut développer, y compris avec la participation, une vision plus positive, plus ambitieuse du site. Et après, eh bien, on adapte le projet au cadre légal. Ça peut paraître assez bizarre théoriquement, mais en réalité, c'est vraiment un point important. Un exemple de carte de trésor sur le littoral neuchâtelois, élaboré par Paysage Gestion, ou justement dans le groupe pluridisciplinaire dans lequel on a travaillé, où on a fait ressortir les trésors, aussi bien les trésors, je dirais, construits, les châteaux, les aires les points de vue, les aires de dégagement, que les trésors paysagers de vastes clairières, de vastes espaces ouverts. C'est vraiment d'aller piocher dans ce territoire-là ce qui en faisait son identité, et là où le projet avait tout intérêt, qui était un projet de directeur régional, un plan directeur régional, où le projet avait tout intérêt à s'appuyer sur ces points-là pour se constituer. Quatrième recommandation ou principe, c'est travailler par variantes en articulant le certain et l'incertain. Ça, c'est issu des réflexions des PACA de Genève sur le côté Ferney-Voltaire. Pourquoi est-ce qu'il est important de travailler par variantes en articulant le certain et l'incertain? Alors, ça, c'est une phrase de Pierre. Pour ne pas tomber amoureux de sa première idée, parce que en faisant bien la différence entre la situation où on est en variante et la situation où on est en scénario, pour être précis sur les notions. Par variante, c'est simplement différentes idées, différentes intentions, différentes visions. Par scénario, on distingue des invariants, c'est un socle commun à toutes les hypothèses, et ensuite on joue consciemment et volontairement avec les variables. Ce sont vraiment des méthodes qui ont été très précisément développées par les gens qui font de la prospective, les méthodes des scénarios. Mais quelle que soit la méthode qu'on utilise, ton projet urbain, peu importe, bien sûr, pour le concepteur, c'est intéressant d'essayer de décentrer son idée, d'essayer de penser à côté de sa première idée, hein, pour reprendre la citation d'Einstein. Mais en plus, c'est un excellent outil de dialogue entre les différents acteurs qui vivent et qui conçoivent la ville. C'est-à-dire que si on peut tout d'un coup rentrer dans les scénarios, c'est très avec les gens, construire ces scénarios avec les gens qui participent aux démarches de concertation, c'est un travail assez qui a un pouvoir didactique important. Troisième raison qui est très importante, c'est une excellente méthode pour intégrer la diversité et la complexité des attentes. quand on dialogue avec les scénarios, ce qui est très intéressant, c'est qu'on est à un moment donné forcément obligé de réfléchir en système. C'est-à-dire si quelqu'un dit oui, mais en fait moi j'aimerais bien qu'on fasse ça, dans la réflexion par scénario, on dit oui, mais alors si vous faites ça, à ce moment-là, ça implique ça et ça et ça. Et cette mise en relation entre les éléments, je ne sais pas si tout d'un coup vous voulez aller construire un excellent éco-quartier à 20 km de tout centre d'animation et tout centre de service à la population. Aujourd'hui, tant qu'on ne sait pas se dématérialiser complètement, ça va impliquer tout un, je prends un exemple concret, hein, ça va impliquer tout un tas de déplacements qui vont, au niveau de la consommation d'énergie, complètement démonter la plus-value du quartier, de l'éco-quartier. Voilà, c'est vraiment ce genre de réflexion-là qu'on peut faire. Et le fait de travailler par scénario et d'organiser le dialogue sur la base des scénarios est vraiment, là aussi, d'expérience, un très bon outil de travail. D'autant qu'un projet urbain, c'est même aussi le cas d'un projet d'architecture, mais c'est peut-être moins évident, mais un projet urbain, c'est vraiment toujours l'œuvre d'une équipe. Je me rappelle d'un de mes professeurs qui disait que finalement, à la sortie, dans un projet urbain, on ne sait même plus forcément qui est l'auteur, et c'est très bien comme ça. Avancer par itération et non pas linéairement, ce qui vient compléter un peu la question des variantes et des scénarios. On est aussi entre la série d'hypothèses et le projet. On passe toujours par une série d'adaptations successives, par une série d'itérations. Ça n'est jamais linéaire, dans les faits. On a des allers-retours entre les échelles, parce que forcément, le projet il est à une échelle donnée, mais on ne peut pas le réfléchir sans replacer dans son contexte spatial et social, ni sans s'appuyer, dès qu'il a une certaine taille, ce qui est souvent le cas pour les projets urbains, ni sans s'appuyer sur des sites plus particuliers à l'intérieur de ces périmètres, qui pourront servir de levier de développement. J'aime bien le terme belge d'ailleurs pour ça, qui parle de secteur levier. On a bien l'image des leviers qui vont pouvoir permettre de déclencher quelque chose. On a forcément des itérations entre la stratégie et les moyens de mise en œuvre, parce que la cohérence entre les intentions initiales, les intentions mises en cours de route, et l'opérationnalité du projet, sa faisabilité spatiale, matérielle, financière, ça ne se construit pas d'un seul coup, ça ne se désuit pas d'un seul coup, donc on est forcément obligé de faire des allers-retours. Et de modifier le projet en conséquence. Et puis des allers-retours entre les temporalités, passé, présent, futur, bien vérifier que le projet il est cohérent avec la dynamique du territoire, c'est-à-dire par rapport à ce qui s'est passé entre le passé et aujourd'hui, est-ce qu'on va dans le sens des dynamiques ou est-ce qu'on s'oppose? Si on va dans le sens, on sait que c'est plus facile. Si on s'oppose, il faut bien réfléchir à où est-ce qu'on va devoir appuyer pour que les dynamiques puissent s'infléchir. Et puis, deuxième chose, évidemment, est-ce que les effets prévisibles du projet sont acceptables? Quels effets sur la mobilité, quels effets sur les prix des locaux, quels effets sur l'environnement, quels effets sur le paysage, tout ça c'est forcément à travailler. Donc entre ce qui est vraiment très important, là aussi mes étudiants m'ont souvent entendu prononcer ces deux mots, mais pour moi la situation actuelle elle est vraiment caractérisée par à la fois l'incertitude, on n'est pas vraiment bien certain de comment ça se passera dans 15 ans, or on doit dessiner des choses. Deuxième chose, c'est complexe au sens de, vraiment au sens d'Edgar Morin, c'est-à-dire complexe, c'est les choses tissées ensemble, je prends toujours cette image, un tissu, si on tire un fil, on a modifié l'ensemble du tissu, alors qu'en fait on n'a tiré qu'un seul fil. La complexité, c'est ça. Et pour travailler en situation de complexité, les méthodes de scénario, les méthodes d'itération, les méthodes multi-acteurs sont vraiment les seules méthodes qui permettent d'avancer relativement sereinement. Alors, aller à l'essentiel et veiller au juste niveau de précision du projet. Ça, c'est quelque chose qui est très important, qui est très difficile, parce qu'il y a extrêmement souvent des pressions, et des pressions importantes, pour que définir plus. C'est quelque chose qu'on lit très bien dans les travaux théoriques sur l'incertitude, c'est que c'est assez humain, mais c'est assez intuitivement, une situation d'incertitude, on a envie de définir plus. En fait, les théoriciens de la complexité expliquent bien que c'est contre-intuitif, mais la bonne solution, ce n'est pas de plus définir, mais c'est de mieux organiser. Donc, prendre du temps à organiser les choses, prendre du temps à savoir qui on va, avec qui on va travailler, à quel moment du processus, est plus important que de figer, est plus efficace que de figer une règle ou où on sait qu'on n'a pas suffisamment d'informations pour être absolument convaincu qu'elle sera toujours valable dans 15 ans. C'est difficile aujourd'hui hein, d'imaginer dans 15 ans vraiment comment on va se déplacer, vraiment quelle ampleur aura pris le télétravail, je vais prendre des exemples concrets, quelle ampleur aura pris le télétravail, ou bien quelle ampleur aura pris tout le système des voitures autonomes, des voitures partagées, et de comment est-ce qu'on va faire, on va pouvoir organiser les déplacements domicile-travail dans 15 ans. Il y a des niveaux d'incertitude qui font que ça peut être assez proche d'aujourd'hui comme vraiment franchement différent. J'ai dans mes collègues ingénieurs compétents en mobilité des avis très divergents. Et aujourd'hui, si je suis intellectuellement honnête, je ne sais pas lequel d'entre eux a raison. Je ne sais pas. C'est vraiment ça. Donc, il est indispensable de ne pas figer ce qui ne doit pas l'être parce qu'on a besoin de marge de manœuvre pour les suivants. Mais ça ne veut pas dire ne rien préciser non plus. C'est-à-dire que c'est un subtil équilibre sur lequel on est tous en train de travailler en ce moment parce que les choses ne sont pas établies dans la profession. L'idée, c'est que ce ne soit pas trop précis parce que si c'est trop précis et que tout d'un coup, il y a quelque chose d'important qui n'est pas prévu qui arrive, ben, on est bloqué, on passe par un système de dérogation qui n'est pas convaincant, ni intellectuellement ni dans les faits. Et puis, ni trop imprécis parce que ben, si on laisse tout faire, les intentions initiales, elles sont perdues en cours de route. Donc cet équilibre-là est assez subtil et dans l'article, on dit que c'est vraiment l'une des choses qui est probablement parmi les plus compliquées, qui demande le plus d'expérience dans la pratique de l'urbanisme. Puis, selon l'aboutissement attendu, c'est-à-dire qu'en urbanisme ou en projet urbain, on a plusieurs types de documents qu'on produit. On peut avoir des documents conceptuels, stratégiques. L'idée, ben, c'est de ne définir que ce qu'on sait être à peu près, de manière certaine, encore valable à l'issue de la validité du plan, voire même au-delà. Si on veut essayer de... Je vais prendre un exemple très précis. J'avais des collègues en face de moi sur un dossier précis qui me disait qui organisait la programmation d'un quartier en fonction d'une étude de marché valable aujourd'hui, en se basant en particulier sur le niveau de revenu des retraités qui aujourd'hui est élevé. Ça, on sait déjà que dans 10 ans, ça ne sera pas le cas. Moi, je ne peux pas intellectuellement ou raisonnablement planifier un quartier pendant 15 ans ou dans 20 ans en me basant sur une étude de marché qui est valable aujourd'hui et où je sais déjà que dans 5 ans, ça sera plus bon. Donc voilà, c'est ce genre de point-là. Donc, s'appuyer sur ce qu'on sait, selon toute vraisemblance, personne n'est devin, qui sera encore valable, ou bien parce que c'est structurel et que de toute façon, ben, une fois qu'une voie CFF est là ou qu'une autoroute est là, elle est là pour plus que 15 ans. Planification réglementaire, ça fait partie des choses aussi assez complexes sur lesquelles on a plusieurs à réfléchir. C'est identifier les bonnes règles dans le sens de celles qui permettent de contribuer à renforcer l'ADN du lieu. Évidemment, respecter tout ce qu'est le cadre légal, mais à l'intérieur de ce cadre légal, il y a des marges de manœuvre. Et ces marges de manœuvre-là, aller les pointer sur l'ADN du lieu. Je vais prendre un exemple sur lequel on a travaillé ensemble, qui était la ville de Sion, la ville des années 50. Essayer de regarder qu'est-ce qui fait l'ADN de Sion. C'est la corniche, c'est le traitement du socle. Et dans le plan, dans le travail d'élaboration du règlement, on a plutôt mis des éléments là-dessus. Idem aussi, on a aussi assez contraint la question des entrées des voiries, pas des voiries, pardon, des parkings souterrains dans les bâtiments. En disant, voilà, si on a des rampes qui descendent à côté de l'immeuble, c'est chaque fois assez dramatique. Si on oblige à ce que les rampes elles soient intégrées dans le bâtiment, à ce moment-là, les choses beaucoup plus soft et beaucoup plus agréables pour l'espace public. On a aussi repéré les axes urbains sur lesquels il y avait vraisemblablement du commerce à long terme et ceux où vraisemblablement il n'y en aurait pas. Ça fait aussi partie, des grands secteurs d'incertitude. Quelle quantité de commerce ou de services à la population on aura dans 15 ans dans les rez-de-chaussée avec le e-commerce? On sait qu'on ne sait pas très bien la quantité. Mais qu'en tout cas, il n'y aura pas des, on dit en blaguant un peu, hein, en tout cas, il n'y aura pas des salons de thé à tous les angles de tous les quartiers. Ce n'est pas possible, à tous les angles de tous les bâtiments de tous les quartiers. Et puis quand on travaille au niveau de projets qui vont se construire, hein, quand on est dans le projet urbain, ce qui s'appelle en France l'urbanisme opérationnel, à ce moment-là, le travail de faisabilité du projet, le fait de l'intégrer tout en amont du projet, c'est-à-dire d'avoir autour de la table aussi des gens, d'avoir vérifié la disponibilité du foncier, ou sinon d'intégrer les propriétaires fonciers, ce sont des choses qui se font déjà, Et puis d'avoir aussi les gens qui, les économistes qui sont capables de dire très vite, oui ça, même à la mouche, même sans avoir fait, même par des ratios, sans avoir fait le calcul complet, oui ça, ça peut tourner ou bien non, ça, ça peut pas tourner, c'est quelque chose qui est important, mais qui se fait aussi simplement, vu que c'est un, cours au départ, c'est quelque chose sur lequel on rend aussi les étudiants assez, assez attentifs. Alors, des exemples de, je dirais, de niveau de précision longuement et mûrement réfléchi, ça c'était au moment des PACA, il y a quelques temps maintenant, où on avait réfléchi à ce qui était vraiment nécessaire, c'est-à-dire pas tous les éléments paysagers par exemple, mais ceux qui vraiment constituaient des limites, ou bien pas toutes les polarités, mais celles où il y avait un enjeu à concentrer des activités et de l'intensité urbaine. Voilà. Ensuite, alors j'en ai déjà un peu parlé, intégrer l'incertitude dans les méthodes de travail, c'est on a déjà vu avec les scénarios, on a déjà vu avec les itérations, c'est tout là aussi c'est quelque chose d'assez complexe, parce que c'est un équilibre sans cesse dynamique. L'idée c'est à la fois de garder le cap, c'est-à-dire dans le sens des premières intentions, ce qui est structurant pour le quartier, ce qui va être structurant pour le territoire, le conserver, le fixer, mais pas trop, juste le bon dosage, et c'est compliqué. Mais savoir aussi saisir les opportunités. Et c'est pour ça que j'aimais bien la citation de Van Eyck, c'est redonner leur juste rôle aux chiffres. On a besoin de ces chiffres pour avoir des ordres de grandeur, des fourchettes, des choses comme ça. Mais il y a une tendance en marche qui n'est pas valable seulement, mais qui est valable dans toute la Suisse, puisque je fais partie de quelques cercles de réflexion à l'échelle de l'ensemble de la Suisse, y compris avec des Suisses allemands. La montée en puissance de l'importance des chiffres en urbanisme est quelque chose qui nous semble devoir être recadré, je dirais. Donc, de savoir que l'ordre de grandeur de la croissance, c'est ça, mais finalement, quelle importance, est-ce que ce soit dans 12 ans, dans 15 ans ou dans 25 ans, même, c'est pas si important que ça. On devrait plutôt travailler par cap ou par étape de cohérence. Et puis l'idée aussi, c'est que c'est plutôt le site, avec ses qualités, son patrimoine, son voisinage, qui permet de définir la taille optimale d'un projet. Alors dans les faits, dans la réalité, c'est un exemple de démarche itérative. On peut avoir une intention, éditée par l'autorité supérieure, de dire, dans ce territoire-là, il nous faudrait 2000 habitants en plus, c'est n'importe quoi. Voilà. Et puis après, on vérifie au niveau du site, ça rentre pas, une fois qu'on a regardé le patrimoine, les autres choses, ou bien là, on pourrait en profiter, faire quelque chose de plus important. C'est vraiment un des cercles d'itération qui est important. La deuxième chose, pour intégrer l'incertitude, c'est s'appuyer sur les dynamiques d'acteurs. On est dans l'espace de la concertation, donc c'est d'autant plus, d'autant plus intéressant de l'affirmer ici. L'idée, c'est vraiment de passer d'un urbanisme statique, d'une planification à 15 ans et après, il n'y a plus de contact avec ceux qui vont la mettre en place, à un urbanisme dynamique dans lequel on sait saisir les opportunités là où elles se trouvent, que ce soit du foncier disponible ou un propriétaire motivé ou des investisseurs intéressés ou une initiative d'une association d'habitants, peu importe. L'important, c'est d'avoir une idée d'un cadre qui fait que le fonctionnement d'ensemble du territoire va être valable à long terme, et puis de savoir jouer à l'intérieur de ce cadre-là qui laisse une certaine marge pour pouvoir travailler avec les opportunités, travailler avec les dynamiques qui sont en train d'émerger. On est beaucoup plus efficace quand on arrive à faire ça, mais là aussi c'est un travail d'expérience et c'est de toute façon toujours un travail d'équipe, parce qu'il ne s'agit ni de renoncer au cap visé, ni de renoncer au niveau de qualité voulue. Ensuite, sur le contenu même du projet, finalement, en particulier dans le cadre de la ville dense et de la densification, c'est-à-dire ce sur quoi on travaille maintenant avec la révision de la LAT, on a la conviction que le plus souvent, il s'agit de concevoir le territoire urbain, le projet urbain, d'abord par le paysage et les espaces publics, pour plusieurs raisons. La question de ce que l'articulation de ce que les architectes, mais j'ai mis entre guillemets parce que finalement j'aime pas le mot vide, mais j'ai pas trouvé mieux encore, pour articuler les vides et les pleins, puisque c'est avec ce jeu de l'espace ouvert et de l'espace construit qu'on crée les formes urbaines. Si on prend le paysage comme un écrin et l'espace public comme la charpente du projet urbain avec des continuités entre les espaces extérieurs et les espaces publics de la ville, on arrive à avoir des projets qui sont plus, comment dire, qui sont de meilleure qualité. Parce que ça permet à la fois de s'appuyer sur la permanence des structures, hein, les éléments forts du grand paysage, le prolongement dans l'urbain, pour façonner le paysage intérieur, ça rejoint aussi la nature en ville, connecte au réseau des espaces publics. On a plein d'éléments là qui peuvent être du coup une structure tout aussi solide que la structure des voies. Parfois ça se raccorde aux voies, mais qui sont une structure qualitative. Et puis l'autre intérêt de travailler comme ça, c'est une piste longuement développée par Jan Gehl sur la base de son expérience à Copenhague, c'est de concevoir l'espace public d'abord pour l'usager, c'est-à-dire pas d'abord pour la voiture. Et quand on prend et qu'on analyse la place dévolue à la voiture et la place dévolue à l'usager dans les projets urbains depuis les années 50, on s'aperçoit qu'on est clairement en face d'espace public, enfin d'espace urbain conçu d'abord pour la voiture. Alors, ce qui est intéressant, c'est que quand on part des usagers fragiles, c'est-à-dire des usagers piétons et des usagers cyclistes, on s'aperçoit que le reste, ça marche aussi. Tandis que quand on fait l'inverse, quand on part d'abord de la voiture, et bien finalement, pour les usagers fragiles, ça ne marche pas forcément. D'où tout l'intérêt. Et puis, en plus, on a une sorte de cercle vertueux, c'est-à-dire que quand on organise bien l'espace pour ces usagers fragiles, on a une ville plus animée, on a, là aussi, hein, sur la base d'études scientifiques assez appuyées sur l'occupation des espaces publics, plutôt dans le nord de l'Europe, mais on n'est pas très loin du nord. On a des espaces plus animés, de ce fait ils sont plus sûrs, de ce fait on a aussi un impact sur une moindre sédentarité, donc une meilleure santé publique. Enfin, il y a toute une chaîne vertueuse à partir de cette façon-là de faire. Et puis, ces espaces-là, ils doivent être dessinés à la juste échelle, pas trop grands. On a souvent des espaces qui sont, je ne sais pas pourquoi, mais dessinés trop grands. Là aussi, j'ai assisté à une conférence de Jan Gehl qui disait, je cite parce que j'avais trouvé drôle, ça m'est resté, dans le doute, mettez-en un mètre de moins. Je trouve ça assez juste. Et puis, prévoir la juste programmation des abords, c'est-à-dire que l'occupation des rez-de-chaussée, même si ça ne rentre pas dans un plan d'affectation, dans un projet urbain, ça doit pouvoir rentrer, parce que c'est déterminant. Là aussi, il y a des villes qui, probablement en marge du droit, interdisent la vieille ville de Sion, pour prendre un exemple très concret, interdit les banques et les agences immobilières dans la vieille ville, de manière à ce que dans la vieille ville, il n'y ait que des commerces ou des bistrots. Et il suffit d'aller un soir, deux semaines, dans la vieille ville de Sion, quand il ne pleut pas, c'est juste très animé. Voilà. Donc, cette occupation des rez-de-chaussée, tout en étant bien conscient qu'on ne pourra pas avoir ce genre d'occupation-là partout, dans tous les quartiers. Donc, qu'est-ce qu'on fait des rez-de-chaussée qui ne vont pas être occupés par des commerces ou par des activités qui sont créateurs d'intensité urbaine? C'est une vraie question sur laquelle on doit vraiment travailler. Probablement en retrouvant des formes d'habitat au rez-de-chaussée à la manière, j'ai en tête les immeubles de Suisse allemande du 19e siècle, où on est légèrement surélevé, et puis que du coup le regard du passant ne pénètre pas l'intérieur de l'espace de vie, ça reste intime, et puis c'est pour des personnes à mobilité réduite, pour des personnes âgées, ça peut être d'excellents logements. Alors ça, c'est un exemple, l'exemple de Langenthal fait par Mathias Verlin, où justement il est parti de l'analyse complète du grand paysage, de regarder comment traverse la ville, comment il se rapproche, et puis il l'a prolongé à l'intérieur des espaces publics, ce que je vous racontais. Ensuite, alors, dans cet article-là, comme dans ce cours, j'ai oublié de dire en introduction que le nombre de principes n'est pas forcément proportionnel à leur importance. Pour moi, ce principe-là d'organiser en parallèle le processus de décision avec les acteurs, il est très très important aussi. Simplement, le contexte de l'article a fait qu'on l'a volontairement plus développé sur la composante spatiale, et que néanmoins, ça vaudrait un article en soi tout seul. à soi tout seul. Donc cette question du processus de décision avec les acteurs, c'est vraiment quelque chose d'important. Je l'ai chaque fois, je dirais, abordé au fur et à mesure des autres principes. Mais pour moi, c'est vraiment essentiel de penser parallèlement au design de l'espace, de concevoir le design du processus, parce que c'est un processus de décision. Et que si on ne le conçoit pas, si on ne le met pas en place de manière volontaire, en anticipant un peu, finalement, on navigue à vue et c'est souvent pas pertinent. De manière un peu simplifiée, mais assez pratique pour réfléchir avec les étudiants, je parle de trois cercles d'acteurs. Il y a les acteurs de la co-décision, c'est-à-dire tous ceux qui ont la compétence formelle de décision, ou tous ceux qui ont en main la propriété foncière ou la capacité financière. De fait, que ça soit organisé juridiquement d'une manière ou d'une autre, c'est eux qui décident. La compétence étant politique, administrative, peu importe. Ensuite, il y a les acteurs de la négociation. Pour moi, toujours en simplifiant, c'est ceux qui détiennent un droit de veto. Alors, de par la loi ou de fait, les voisins, les lobbies, on doit engager des démarches de négociation avec ces cercles-là. Et on doit, en fonction de la maturation, en fonction de ce qui se passe dans le territoire, être assez fin sur cette ligne-là, parce que c'est souvent un facteur de blocage que tout le monde connaît. Et puis les acteurs de la concertation, alors au sens plus large, c'est une des définitions. On peut mettre 36 définitions sur concertation, négociation, co-décision, voilà, c'en est une. Pour moi, c'est tous ceux qui peuvent enrichir le projet, contribuer à sa co-construction. Ça peut être plus ou moins ambitieux suivant le choix des décideurs, suivant le choix de la première ligne. Enrichir par leur vécu du site de toute manière ou par tout autre apport, mais parfois des associations qui ont une réelle connaissance. Voilà. Et c'est vraiment cette organisation du design processus, c'est vraiment un facteur essentiel de l'aboutissement d'un projet. Parce que si on oublie cette composante humaine, on peut construire des facteurs de blocage. Et si on les travaille, et si on intègre, si on réfléchit à l'avance, on peut au contraire construire des facteurs d'acceptation. Ce n'est pas non plus une science exacte. J'ai eu dans ma carrière quelques opposants qui étaient des opposants irréductibles. Ce n'était pas dans un village gaulois, mais ils étaient irréductibles néanmoins. Voilà, ça peut aussi être parfois problématique. Et puis, dernier point, c'est penser à construire le fil rouge du récit tout au long de la démarche. Parce que comme je l'ai dit au démarrage, en fait, je vous ai parlé d'itération, de scénario, mais si on raconte tout ça, on perd les interlocuteurs, je pense, en 10 minutes maximum. Donc, toute l'idée, c'est d'apprendre à raconter l'histoire du projet sans pour autant dénaturer ni simplifier outrageusement le propos. La matière d'un projet urbain, c'est complexe, et ça concerne un futur qui n'est pas perceptible, c'est-à-dire que les gens avec lesquels on parle ne peuvent pas le toucher demain, ni même après-demain, c'est long. Et puis, nous, les professionnels, on utilise des modes d'expression qui sont maîtrisés par peu de monde. Le nombre de personnes qui savent lire des plans n'est certainement pas la majorité de la population. Puis, on a un vrai jargon hermétique. Je relisais ce matin le nombre de sigles que j'avais dans un de mes rapports. On me demandait de mettre chaque fois le sigle avant la dénomination. Il y en a à toutes les pages. Quoi. Donc on a un vrai jargon. Et même quand on essaye de traduire, même quand on essaye de se mettre dans une posture, de dire tiens, je raconte ça à un élu, lui, il n'a pas ce jargon-là. Donc comment, certains l'ont, mais pas tous, comment est-ce que je peux exprimer simplement les choses? On se fait quand même avoir. On se fait quand même toujours avoir. Donc, ce qui me semble important, c'est, et je dis toujours aussi que dans les formations d'urbanistes, il y a aussi ce rôle-là, l'orateur, le scribe de l'équipe, le communicant, mais au sens vraiment pour moi noble, hein, pas au sens de vendeur de savonnette du tout, il doit savoir viser l'essentiel, faire ressortir les éléments clés du projet. Et cette construction du fil rouge du récit, elle est différente des itérations du projet, mais c'est vraiment essentiel, parce que d'abord, à la fois à l'interne de l'équipe, elle permet de construire la cohérence du projet, la cohérence entre les principes et les moyens mis en œuvre, et ça c'est très important. Elle permet de choisir les bonnes images, et elle permet aussi d'adapter les moyens de communication, elle doit passer aussi par l'adaptation des moyens de communication à l'interlocuteur. L'idée, c'est de pouvoir expliquer la même chose sans changer le fond, sans tricher, mais avec des mots différents selon qu'on va expliquer un projet urbain à une classe enfant, ou bien un élu qui a déjà pas mal de connaissances du sujet, ou bien un parterre de professionnels avertis. Mais l'idée, c'est vraiment d'apprendre à pouvoir expliquer la même chose en développant plus ou moins un certain nombre de, je dirais, d'éléments ou d'explications. Et c'est un vrai travail, et ce n'est pas un travail forcément très simple. L'idée de faire ressortir les éléments clés, je pense aussi qu'il y a un mot que je n'ai pas écrit là, mais qui pour moi est très important, c'est qu'à un moment donné, tout ça doit faire sens pour les gens. Le faire sens, c'est quelque chose qu'on retrouve même dans la sociologie des organisations, Crozier et compagnie. C'est très ancien, c'est-à-dire qu'on sait depuis les années 80 qu'un groupe est capable d'adhérer à quelque chose si ça fait sens pour lui. Et si on tant qu'on n'a pas construit ce sens-là, eh bien, le projet, il a des chances de passer, mais il a aussi pas mal de chances de ne pas passer, de ne pas être compris ou de ne pas être élaboré, de ne pas être juste, tout simplement. Alors, qu'est-ce que je lui dis, là, lui? Je lui dis que je ne veux pas qu'il se connecte. Je lui dis oui, d'accord, hop, allez, oui. Et ces dialogues, ces éléments, ça passe aussi par des éléments, différents types de langage. J'ai mis exprès une photo de maquette parce que ça rejoint une discussion toute récente qu'on a eue dans cette salle même sur les vertus comparées d'une maquette physique et d'une maquette numérique. C'est assez intéressant, je suis allée discuter avec une amie psychologue pour savoir finalement quelle est la différence d'un groupe face à un objet physique réel ou face à un objet virtuel. Et je pense que c'est des sujets qu'on va devoir creuser, parce que les deux sont certainement complémentaires, mais tant qu'on reste dans le virtuel, qu'on n'est pas corporellement confronté à quelque chose, ce n'est pas le même type de rapport que si on est confronté à un objet, sans pour autant être, vieux jeu, parce que j'utilise beaucoup ça, donc voilà. Mais savoir quand est-ce que c'est pertinent d'utiliser du virtuel, et quand est-ce que le physique, il faut à un moment donné être confronté matériellement et physiquement à un objet, ça c'est assez intéressant. Un sujet rigolo à faire. Ah non, il ne veut plus avancer du coup. Qu'est-ce que j'ai fait? J'aurais pas dû... Ah ben voilà, si, ça y est, c'est bon. Et alors, avec une petite image que Pierre a trouvée, que, voilà, traité d'humilité de Louis XIV, on a trouvé ça fun. Qu'est-ce qu'on en fait de tout ceci? D'abord, justement, je pense qu'après quelques années, on se rend compte qu'un projet urbain, ça nous incite à rester très modeste. Un projet, c'est toujours un travail de groupe. Et puis, on est face à plein de choses qu'on ne sait pas. Et tant qu'on reconnaît qu'on ne sait pas, on a moins de chances de se tromper que si tout d'un coup, on pense qu'on sait. J'incite beaucoup à ça. Et puis ensuite, l'idée, c'est qu'on a une boîte à outils, on a des pistes, on a des axes. Et c'est de l'adapter à chaque cas particulier dans le dialogue et avec créativité. Et je remets ça parce que l'image de droite, j'aime beaucoup. En fait, entre des limites strictes et claires, si je reviens à ce jeu, entre les limites comme les Toblerone ou bien l'interdiction de... C'est de l'humour anglais, en vrai, hein, c'est pas un montage photo, j'ai vraiment vu ça à Londres. Interdit de se baigner, mais au cas où vous ne respecteriez pas, on vous met quand même la bouée de sauvetage. J'avais trouvé ça assez chouette. Voilà, alors je suis à peu près dans les temps. Un petit peu plus. Et maintenant, je réponds aux questions.